Radio Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition de midi. D'abord les titres. Goma retrouve de plus en plus un calme, les armes se taisent de plus en plus, mais les activités économiques n'ont pas encore atteint leur vitesse de croisière. Nous verrons tout cela dans quelques minutes. Le fleuve Congo en pleine cure de jouvence, la régie de voies fluviales a lancé la campagne de balisage de cette voie, spécialement dans son tronçon Kinshasa-Kisangani. Dans ce journal, les explications du directeur général de la RVF, Daniel Luaboshi. Notre invité est Yves Amissi, superviseur chargé des soins de santé primaire dans la zone de santé de Niemba-Kalemie. Il dresse un bilan positif de différentes campagnes de vaccination organisées en 2024 dans cette zone de santé où l'on trouve aussi des camps de déplacés internes. Encore une fois, bonjour. La situation sécuritaire de Goma reste toujours à la une de l'actualité, vous le savez. Nous allons nous appesantir sur ce qui se passe dans cette ville du Nord Kivu, une semaine après l'entrée des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, qui se sont affrontés au FRDC, causant ainsi la paralysie des activités. Sur ce, je reçois Grâce Hamzati dans ce studio. Bonjour Grâce.
Bonjour Lévin Mbwinga. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi.
Voilà, dis-nous quelle est la situation dans la ville de Goma jusqu'à la mi-journée de ce lundi.
Lévin, la situation est actuellement calme dans la ville. Les armes se sont tues. Toutefois, une certaine inquiétude persiste, notamment dans la partie nord de la ville. Les habitants craignent la reprise des combats, étant donné qu'il y a encore quelques poches de résistance dans cette partie, notamment le Wazalendo. C'est le cas des quartiers Kibwe, Kasika, Bouéné, Majengo, Bugamba 1 et 2 et Turunga. Mais pour le moment, en tout cas, c'est calme. Par ailleurs, des scènes de pillage par les rebelles du M23 dans les entreprises et établissements publics sont signalées. Ces derniers emportent des véhicules de l'État qui sont conduits en dehors de Goma, selon des sources concordantes.
Grâce, dis-nous, et la population, elle qui est toujours victime, qu'est-ce qui se passe?
Les habitants aujourd'hui, les habitants de Goma vaquent à leurs occupations. Tôt le matin, les boutiques, officines pharmaceutiques et autres commerces ont ouvert, mais dans la timidité. Au centre-ville, à Birere par exemple, tout comme sur les axes Katoï, entrée président de la République, terminus Katindo, Trois Lampes et Virunga pour ne citer que ces endroits, plusieurs commerces sont opérationnels. Les écoles, les universités et certains services de l'État restent encore fermés. Cependant, Lévin, même si quelques bus de transport en commun et des motos sont perceptibles dans la ville, il s'observe un problème de mobilité à cause de la hausse du prix du carburant impactant sur le prix du transport face à une population déjà touchée par une crise économique générée par la guerre. Alors qu'un litre de carburant qui s'est négocié à 5000 francs congolais avant les combats dans Goma, aujourd'hui, la même quantité de carburant s'est négociée entre 6500 et 8000 francs congolais. Quant au taux du dollar, là encore il y a un autre problème, Lévin, il s'observe une instabilité du taux d'échange. Les uns changent un dollar au taux de 2500 francs congolais, d'autres les font à 2000 francs, voire moins de 2000 francs.
Et pour terminer, qu'en est-il grâce de la situation des déplacés?
Oui, si certains déplacés qui vivaient dans les différents camps et autour de Goma tentent de regagner leur camp ou leur milieu naturel, d'autres disent être confrontés à plusieurs défis. Les uns évoquent l'absence des moyens de transport pour un bon retour à domicile. D'autres hésitent de retourner parce que leurs maisons ont été démolies. C'est le cas des ressortissants des villages Kingi, Kitembe, Luhonga, Kahira et Nyabiondo dans les territoires de Masisi. D'autres encore disent craindre une probable dégradation de la situation sécuritaire aussitôt retournés dans leurs différentes entités d'origine. Signalons toutefois, Lévin, qu'avec l'asphyxie causée par cette guerre, plusieurs observateurs sur place estiment que la reprise du trafic Goma, Sake, Minova, Masisi pourrait soulager tant soit peu les habitants, notamment par le ravitaillement en produits vivriers.
Merci Grâce pour cet éclairage sur le plan humanitaire. Vous venez de l'effleurer. La situation reste toujours dramatique. Les corps des victimes de la guerre entre le FRDC et le M23 continuent d'être découverts par les équipes de la Croix-Rouge RDC dans la ville de Goma. C'est notamment dans le territoire de Nirangongo où une vingtaine de corps ont été découverts hier dimanche. Une situation similaire est rapportée dans la prison centrale de Goma. Des journalistes de Goma, à leur tour, ont du mal mal à accéder à la maison de presse, effrayés par les odeurs ressenties dans le périmètre du Mont Goma. Vers le quartier office, un autre corps y était visible jusque ce matin, comme l'indique cet habitant au téléphone de Ronly Ntimbonera.
Ce qui reste à faire, c'est ramasser les corps qui sont dans des endroits cachés, par exemple les Mont Goma, où jusqu'à présent il y a une odeur nauséabonde. En tout cas, nous pensons que la Croix-Rouge n'a pas encore passé dans la colline ici, en haut. Voilà pourquoi nous sommes dérangés par les odeurs qui viennent de la mort et de l'hôpital provincial. Comme vous le savez, la mort qui est juste proche de l'INPC, de la RTNC, de l'enclos de la RTNC. Donc, il y a une nouvelle morgue, il y a une morgue tellement construite ici derrière. Et c'est en tout cas une odeur nauséabonde, ce qui fait à ce que pour résister au centre de presse, il faut porter un masque comme.
Nous le disions tantôt, les activités socio-économiques n'ont pas encore repris à plein régime dans la ville de Goma. Ce lundi 3 février, les habitants joints depuis cette partie de la province du Nord Kivu indiquent que seules quelques activités ont repris. Il s'agit notamment de l'ouverture de certains marchés, du transport public et du retrait d'argent via les distributeurs automatiques de certaines banques, les activités scolaires et celles liées au transfert d'argent via Mobile Money restent pour l'instant inaccessibles. Les services publics ne sont toujours pas fonctionnels. Suivez cet habitant, joint par Ronly Ntibonera.
Tout le moment où on est là, il y a les motos qui circulent, les taxis, les bus et les marchés aussi fonctionnent, sauf que les services publics et les banques ne fonctionnent pas. Hier soir, j'étais à l'alimentation, on m'avait changé 10 dollars à 2500. Au marché, 1 dollar équivaut à 2000 francs. Oui, le marché à la ligne et le marché Birere vers Mosquée, le marché TMK aussi. Mais Virunga, certains seulement, certains commerçants. Pardon?
Est-ce que les banques fonctionnent et les écoles?
Non, les banques ne fonctionnent pas, sauf les ATM. Donc, si tu as un masque, tu peux aller et récupérer l'argent chez EcoBank, mais pas chez TMB. La connaissance qui est là, c'est EcoBank seulement. Les Airtel et les mobile money ne fonctionnent presque pas.
Place à présent à ce triste bilan. Entre 160 et 170 détenus sont morts dans la prison centrale de Mounzenze à Goma le 27 janvier dernier. Révélation d'une source pénitentiaire. Je vous rappelle que ces victimes ont trouvé la mort au cours d'une évasion massive alors que le groupe rebelle M23, soutenu par l'armée rwandaise, faisait son entrée dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là et que devient cette prison aujourd'hui? Réponse dans ce reportage de Poli Mouzalia, rendu par Martial Papi Moukeba.
Les prisonniers avaient profité des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 pour organiser une évasion massive en mettant les faits sur une grande partie de la prison centrale de Mounzenze. Au moins 141 femmes sont mortes et tuées par les faits de l'incendie. On déplore également les décès des 28 enfants qui accompagnaient leur mère incarcérée. Les autres détenus décédés sont morts par balles alors que les gardiens tentaient d'étouffer l'évasion, précise un des responsables de la maison carcérale qui a requis l'anonymat. Une semaine après ces incidents, la principale prison du Nord Kivu est vide. Il n'y a plus de gardiens, plus de détenus. Une grande partie de la maison carcérale a été incendiée, y compris les bureaux de l'administration pénitentiaire. À la suite de cette évasion massive, la prison a été totalement pillée. Avant ces incidents, la prison de Mounzenze comptait environ 4400 détenus.
Dans la ville de Beni, la population est descendue ce lundi dans les rues pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo engagés au front contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Cette marche pacifique qui a drainé du monde a été organisée par la coordination urbaine de la société civile. Un mémorandum a été lu devant la mairie de la ville, point de chute de cette marche qui s'est déroulée sans violence. Marc Marofimbo, reportage.
Des milliers d'habitants de Bin sont descendus dans les rues ce lundi 3 février pour soutenir les FARDC et dire non à la rébellion du M23 au Nord Kivu et au Sud Kivu soutenu par le Rwanda. Ils ont répondu à l'appel de la coordination de la société civile. Les maires de la ville, les bourgmestres des quatre communes, les élus nationaux et provinciaux présents dans la ville et les membres des différentes associations ont pris part à cette manifestation. Pépin Kavota, le président de la coordination urbaine de la société civile, explique l'objectif de cette activité.
L'objectif principal, c'était le soutien au FARDC, pleurer avec nos frères et sœurs de Goma, c'était de dire non à la balkanisation, de dire non à l'agression nous imposée par le Rwanda. La grande recommandation à la population, c'est d'abord d'appliquer l'article 63 et 64 de la Constitution, notre Constitution, et aussi exiger à la communauté internationale et même à la SADC de s'imposer au Rwanda pour que le Rwanda ne continue pas son aventure sur le sol congolais. Aux autorités, n'est-ce pas, d'être toujours aux côtés de sa population, parce que la population était abandonnée apparemment à Goma, et c'est autant qu'elle a été tuée comme ça, bêtement comme des petites mouches, par les Rwandais.
Toutes les activités socio-économiques sont restées paralysées en cette première journée des manifestations qui vont se poursuivre ce mardi 4 février selon la société civile. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Tout à fait autre chose, le fleuve Congo en pleine cure de jouvence. La régie de voies fluviales, RVF, a officiellement lancé la campagne de balisage de cette voie fluviale, spécialement dans son tronçon compris entre Kinshasa et Kisangani. C'était au cours d'une cérémonie organisée samedi 1er février, ici dans la capitale, au chantier naval de cette entreprise. Le directeur général de la RVF a expliqué que les dernières crues exceptionnelles sur le bassin du Congo en décembre 2023 et en janvier 2024 avait occasionné des perturbations de routes de navigation et même celles des accès portuaires. Cette situation, fait remarquer Daniel Luaboshi, oblige la RVF à procéder au balisage sur l'ensemble du réseau pour faciliter le transport fluvial, l'épine dorsale de l'économie nationale. On écoute les explications de Daniel Luaboshi dans ses propos recueillis par Alain Irung.
6 mois après le balisage sur la rivière Kasaï, nous voilà encore en train de lancer celle sur le fleuve Congo. Il est vrai que d'aucuns se posent la question du pourquoi du non-balisage permanent sur nos cours d'eau navigables, ou encore pourquoi lancer la présente campagne 2 ans plus tard après celle de 2022. La réponse n'est rien d'autre que dire que malgré la présence d'un personnel qualifié et disposé, la RVF est butée principalement à la précarité de sa trésorerie due à l'aménagement des ressources financières propres provenant essentiellement des recettes sur la taxe de navigation et au non-décaissement de la subvention que l'État prévoit pour elle. C'est ici l'occasion de demander non seulement à l'État de bien vouloir décaisser régulièrement les crédits prévus pour la RVF, mais aussi à tous les armateurs de la RDC, ici représentés par leur président national, de s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de la RVF pour qu'elle soit toujours capable de leur fournir un travail régulier et de qualité.
Notez que c'est le représentant personnel du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba à cette cérémonie à Boliataba Mopolo, secrétaire général au ministère des Transports, voies de communication et désenclavement, qui a donné le coup d'envoi de la dite campagne. Et puis la société minière SMEC est accusée d'exploitation anarchique et illégale des minerais le long de la rivière Ituri entre les territoires de Mambassé et Iromo. Cette dénonciation est faite dans un rapport transmis ce lundi au gouverneur de province par le député honoraire du territoire d'Iromo, Jackson Aoussé. Il affirme que cette sous-traitance des expatriés chinois violerait toute la législation régissant le secteur des mines au détriment des communautés riveraines. On l'écoute au micro de Sadiki Aboubakar.
La situation de l'exploitation le long de la rivière Ituri est alarmante. Qu'on peut qualifier un pillage systématique des minerais aujourd'hui par les Chinois, et cela passe à travers nos entreprises et des sous-traitances et tout ça, et c'est inacceptable. L'exploitation minière, c'est un domaine réglementé. Il y a des lois qui encadrent ce domaine. Mais ici, nous sommes dans une situation où nous sortons totalement et complètement de toute la réglementation, parce que je n'ai pas vu, messieurs les journalistes, aucun plat d'études des pactes sociaux ou environnementaux. Je n'ai pas vu aussi les cahiers des charges de la communauté. C'est une exploitation anarchique et illégale. Parce qu'aujourd'hui, si vous entrez là-bas, les lits de la rivière Ituri est dénaturé. Les glissements de terre, la pollution de ces eaux. Parce qu'il y a des populations dans cette zone qui boivent, qui utilisent au quotidien ces eaux. Est-ce que les précautions ont été prises pour que ces villes-là soient protégée. Je ne passe pas. Qu'on suspende les travaux pour qu'on limite les dégâts. Il faut qu'on revienne autour de la table pour qu'on rediscute sur tous les cahiers des charges pour que les travaux puissent continuer.
Retour à Kinshasa, 2 morts et 2 blessés. Bilan d'un braquage qui a échoué hier dimanche la nuit au supermarché Kin Marché du quartier Ngilima dans la commune de Matete, ici dans la capitale. Parmi les morts, un policier de garde de ce site et un cambiste qui a reçu une balle perdue. Des bandits armés venus à bord d'une moto ont tenté de s'introduire dans cette maison commerciale. Malheureusement pour eux, un des gardes voyant la scène a verrouillé la porte automatique. Le bourgmestre de Matete appelle les habitants de cette commune au calme. Il affirme qu'une enquête est en cours et qu'un suspect est aux arrêts à l'auditorat militaire de Matete. Mbujimayi au Kasaï oriental, confronté à la hausse de prix de sacs de charbon de bois. Tenez, le sac de charbon de bois qui se vendait il y a 3 semaines à 25 000 francs congolais se négocie entre 40 et 45 000 francs congolais aujourd'hui. À la base, plusieurs raisons comme le mauvais état des routes, la hausse du prix du carburant. Esther Ndalafina nous donne plus de détails.
Georgette, vendeuse de charbon de bois au grand marché Bakwadianga, parle de l'absence des transporteurs de charbon de bois vers les centres de consommation.
Les transporteurs de charbon de bois avaient suspendu les activités à cause des festivités. Ils vont reprendre vers le 25 ou le mois prochain.
Albert Ntumba évoque d'autres causes, dont voici.
Là où nous achetons le charbon de bois, les routes sont en mauvais état. 2, il y a hausse des prix de carburant. 3, les précepteurs des taxes nous font payer beaucoup d'argent. À cela s'ajoutent les droits de terre, les dépôts et d'autres formalités.
Cette hausse a entraîné la diminution de la quantité de charbon de bois chez les revendeurs.
J'ai acheté le charbon de bois. C'est une hausse vertigineuse. Je peux faire l'effort pour vendre en détail, diminuer la quantité. Mais il sera toujours difficile de récupérer le capital.
Pendant ce temps, les ménagères disent en pâtir. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
4 jours après la collision aérienne à Washington entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire qui a coûté la vie à 67 personnes, 55 corps ont été repêchés du fleuve Potomac et identifiés, ont indiqué hier dimanche les autorités locales. Les services de secours doivent entamer ce lundi les opérations de levage de l'épave de l'avion.
L'invité.
Notre invité est Yves Amissi, superviseur chargé des soins de santé primaire dans la zone de santé de Niemba à Kalemi. Il dresse le bilan des différentes campagnes de vaccination organisées en 2024 dans cette zone de santé, dans laquelle on trouve aussi des camps de déplacés internes. Yves Amissi s'entretient ici avec Paula Munanga.
Monsieur Yves Amissi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Dites-nous tout d'abord, comment se sont déroulées les différentes campagnes de vaccination contre la poliomyélite que vous avez organisées dans votre zone de santé de Niemba au cours de l'année 2024?
Effectivement, dans notre zone de santé de Niemba, qui est une zone de santé urbano-rurale, nous avons eu à mener 6 campagnes qu'on appelle activités de masse. Et au mois de mars, au mois de juin, au mois d'août, au mois d'octobre, au mois de novembre, ainsi qu'au mois de décembre. Et d'une manière générale, les activités se sont bien déroulées et que les enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite. Et qui dit la vaccination, c'est déjà la protection de ces enfants-là. Et nous avons eu à mener des campagnes selon les différentes cibles, les enfants de 0 à 59 mois, ainsi que il y a eu des temps où nous sommes allés jusqu'à 15 ans pour protéger les enfants contre la poliomyélite.
Au sein de votre zone de santé, on trouve aussi des camps de déplacés. Comment est-ce que vous avez pu vous organiser pour vacciner les enfants qui se trouvent dans des camps de déplacés?
Effectivement, comme vous savez, notre zone de santé de Niemba, nous avons dit, c'est une zone de santé urbano-rurale, une zone de santé qui est post-conflit. Effectivement, nous avons eu des conflits interethniques enregistrés dans certaines aires de santé, dans certains axes de notre zone de santé qui ont conduit au déplacement de la population vers les camps de déplacés. Et cet aspect des choses n'a pas facilité vraiment les activités de campagne. Mais nous nous sommes efforcés aux côtés des partenaires techniques et financiers qui nous ont vraiment accompagnés et plus nous aider à atteindre tous ces coins-là. Et les enfants ont été vaccinés. Dans les camps de déplacés, on se mettait aussi à utiliser plus les habitants du camp pour faciliter l'intégration. Et ces habitants ont été briefés et les activités se sont bien déroulées dans les camps de déplacés. Pas seulement dans les camps de déplacés, même les villages, les activités se sont bien passées.
Comment est-ce que les habitants vous ont aidé?
Voilà, les habitants, c'est dans la compréhension et l'impréhension, voire même leur implication. Et nous nous sommes vraiment mis à les utiliser via leur connaissance du milieu ainsi que leur implication dans les activités de vaccination. Ça nous a facilité parce que ce n'était pas des corps étrangers qu'on importait. On voyait des gens qui sont bien connus dans le milieu et ce sont ces gens-là qui ont facilité vraiment la vaccination dans ces coins-là.
Au niveau de la zone de santé de Niemba, il y a combien de camps de déplacés?
Pour le moment, on est resté avec 4 camps de déplacés. Auparavant, il y en avait 8. Fin 2023, il y en avait 12. Et on est en train de mettre fin à certains cas pour remettre la population là où il y a maintenant la quiétude. La population peut rentrer dans leur milieu d'origine pour continuer avec les activités champêtres. Et quand qui reste, c'est là où il y a encore plus d'insécurité et qu'il n'y a pas moyen de faire retourner ces gens-là dans leur milieu d'origine.
Et au niveau de statistiques au cours de l'année 2024, vous venez de dire que vous avez organisé une série de campagnes de vaccination contre la poliomyélite. Pouvons-nous avoir les chiffres des enfants qui ont été vaccinés finalement?
Bien sûr, nous avons amené une série de campagnes qui sont au nombre de 6 d'ailleurs. Et d'une manière globale, nous avons atteint notre objectif. Hein. L'objectif était de vacciner plus ou moins 95% d'enfants contre la poliomyélite. Effectivement, nous avons eu à atteindre une couverture de 98,7% des enfants vaccinés contre la poliomyélite dans toute la zone de santé.
Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés au cours de ces différentes campagne de vaccination?
Nous avons d'abord connu des difficultés d'ordre sécuritaire. La sécurité dans les deux axes. Sur l'axe Kyoko, sur l'axe Bendera aussi. Et l'axe Kyoko a un sous-axe aussi qui est Lambokilela. Du côté Kyoko et du côté Lambokilela, ce sont les conflits inter-ethniques qui ont bâti les records là-bas. Il n'y avait pas moyen vraiment d'accéder dans ces axes-là. Et sur l'axe Bendera, ce sont les coupeurs de route qui font rage là-bas. Nous avons connu aussi quelques difficultés d'ordre technique. Là, nous avons enregistré aussi le refus de certains parents de faire vacciner leurs enfants.
Monsieur Yves Amissi, je vous remercie.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Si vous l'avez aimé, je vous dis tout de suite qu'il a connu le concours de Martin Sebujangwe, Élisée Chikota et Polydor Basunga. Excellente journée à tous et surtout, restez branchés sur Radio Capi.